Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, quelle est l'altitude du Mont Blanc ? Réponse s'il vous plaît, monsieur.
4807 mètres et 80 centimètres.
C'est le résultat de la dernière campagne de mesure. Le plus haut sommet d'Europe s'est tassé d'un mètre en 4 ans. Détail dans un instant avec Célia Kiyré. Les écologistes sont-ils plus forts après la primaire ? Victoire d'un cheveu de Yannick Jadot face à Sandrine Rousseau. Et maintenant, quelle campagne ? Comment rassembler ? Sandrine Rousseau, elle qui a porté l'écoféminisme, invitée du 13-14. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, rubrique Réagir. Ce sera à 13h30. Il jouait du violon pendant son opération du cerveau. Exemple frappant de chirurgie éveillée il y a quelques jours à Caen. Le chirurgien qui a pratiqué l'opération sera en direct avec nous pour raconter. Combien de pêcheurs français pourront continuer à travailler dans les eaux britanniques après le Brexit ? Des dizaines de licences expirent demain. La tension monte. Dans l'actualité encore, la PMA pour les femmes seules et couples de femmes entre vraiment en vigueur. Les décrets d'application ont été publiés ce matin. 14 à 17% des cigarettes consommées en France sont vendues à la frontière ou en contrebande. Et puis le succès des Lego, chiffre d'affaires et bénéfices records. Vos autres rendez-vous dans le 13-14, la chronique cinéma de Corinne Pellissier, la première réalisatrice de cinéma Alice Guy dans le vif de l'histoire. Et puis David Bowie, Rock'n'Roll, Suicide, dans C'est une chanson. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Le Mont Blanc culmine à 4807 mètres et 80 centimètres. Les résultats de la dernière campagne de mesure ont donc été donnés ce matin. La hauteur du plus haut sommet français et européen peut varier de plusieurs mètres au fil des années. Le dernier état des lieux ressemble donc à ce qu'on a appris à l'école, Célia Kiyré, mais le Mont Blanc s'est tassé depuis 2017.
Oui, ce sommet mythique, le toit de l'Europe a perdu un mètre exactement en 4 ans, avec une très petite marge d'erreur de 10 centimètres. 27 passionnés sont montés pendant 10 heures avec leurs appareils sur le dos. Ils ont enlevé une couche de neige de 40 cm pour être plus juste. Ils mesurent également la calotte glaciaire. Or, quand l'altitude du sommet décroît, le volume de glace diminue aussi. Depuis 2001, l'altitude du sommet perd 13 cm par an. Ces données sont cruciales pour les glaciologues comme Luc Moreau. Le glacier reste bien à moins 15 degrés, mais quand on creuse à 60 mètres de profondeur sous la glace, il y a bien une évolution de la température.
On a des thermomètres. Cette température est passée de moins 11 degrés en 1994 à moins 9 degrés. Donc on voit que ça se réchauffe quand même dans les glaciers froids. Le Mont Blanc, si on exagère, ce sera dans 100 ans l'endroit où il ne restera plus que de la glace. Ce sera le dernier symbole de la glace et on sera content d'avoir cette belle série de mesures.
Le gardien de l'Europe se transforme donc en profondeur du haut de ses 4807 mètres. Et même si ça peut être surprenant, le Mont Blanc est légèrement plus haut maintenant, à la fin de l'été, qu'au printemps. Car l'hiver, il est balayé par les vents de plus en plus violents.
Alors comment mesure-t-on le Mont Blanc ? Le géomètre expert Jean Degaret, qui a dirigé la campagne de mesure, était ce matin l'invité de Mathilde Buneau sur France Inter.
Nous, on mesure directement sur la glace. Mm-hmm. On enlève la dernière couche de neige fraîche. Et puis ensuite, on mesure aussi toute la calotte glaciaire au-dessus de 4800 mètres pour déterminer le volume cumulé de glace et de neige au sommet. C'est des mesures satellitaires, c'est-à-dire qu'on a un récepteur GPS. On est avec un récepteur au sommet, on capte les signaux satellites, on détermine la distance entre le satellite et l'antenne. Et avec deux satellites, vous avez deux sphères, donc ça vous donne une intersection de sphères qui est un cercle. Avec trois sphères, vous avez l'intersection, ça fait un point. Et il vous faut au moins un quatrième pour déterminer la composante temps. Quatre dimensions. Alors au sommet, on n'a pas de mal à avoir quatre satellites. Hein. On en a plutôt entre 20 et 30 facilement, puisqu'on a un ciel bien dégagé. On a une précision de l'ordre de plus ou moins 10 cm.
Voilà, et ça donne donc 4807 mètres et 80 cm. Le volcan Cumbre Vieja, lui, culmine à près de 2000 mètres d'altitude dans l'archipel espagnol des Canaries, au large du Maroc, dans l'océan Atlantique. Et il est entré en éruption il y a 10 jours, sur l'île de La Palma. 6000 des 85 000 habitants ont déjà dû quitter leur domicile. Plus de 600 bâtiments détruits. Et ce que beaucoup redoutaient, s'est produit la nuit dernière. La lave a atteint l'océan avec ce que cela comporte d'émanations de gaz toxiques et de particules dangereuses pour la santé, Julie Pietri.
Oui, c'était hier soir aux alentours de 23h. Scène spectaculaire, la nuit noire et la lave incandescente qui semble tomber en cascade et s'engouffre dans la mer. Les habitants de La Palma ont reçu des ordres, interdiction de s'approcher de cette zone dans un rayon de près de 3 km. À la télévision canarienne, Noelia Garcia, maire de la commune de Los Laños, toute proche du volcan, rappelle les conseils de sécurité.
À l'intérieur de la zone chaude, nous avons restreint les accès à cause de la fumée. Cette nuit, il y a eu beaucoup de vent. Les niveaux de cendres sont tels que le port du masque est recommandé.
Tant que le vent pousse vers la mer, le risque pour les habitants est mineur, selon les informations diffusées par le plan d'urgence volcanique des Canaries. Et finalement, que la lave atteigne la mer, c'est plutôt une bonne nouvelle, explique dans les médias locaux Rosa Mateos de l'Institut géologique d'Espagne.
Pourquoi ? Parce que la coulée a enfin ouvert une voie de drainage. C'est-à-dire que la lave qui se déverse actuellement du volcan, très fluide, qui descend rapidement, le meilleur scénario, c'est qu'elle s'écoule dans la mer et qu'elle ne s'étende pas plus sur la superficie de l'île en causant davantage de dégâts.
Depuis le début de l'éruption, pas de blessés, pas de morts, mais plus de 650 bâtiments, maisons ou autres, ont été détruits par la lave.
Merci Julie Pietriste. Une guerre qui dure depuis des années, la guerre au Yémen. À l'instant, l'agence France-Presse nous dit qu'au moins 100 personnes ont été tuées dans des combats autour de la ville de Marib. L'affaire des sous-marins australiens n'a pas des répercussions politiques qu'en France. L'annulation inattendue du contrat par l'Australie, la conclusion d'un partenariat avec les États-Unis et le Royaume-Uni il y a deux semaines, suscite toujours des réactions dans l'île, en Australie aussi. L'ancien Premier ministre Malcolm Turnbull vient de dénoncer très violemment l'attitude de son successeur Scott Morrison. France Inter à Sydney, Grégory Pless.
Ils sont issus de la même formation politique, mais Scott Morrison et Malcolm Turnbull ont des vues radicalement opposées sur quasiment tous les sujets. Ce dernier l'a encore prouvé aujourd'hui en remettant en cause la pertinence pour l'Australie de se doter d'une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire alors qu'elle ne dispose pas d'industrie nucléaire civile. Mais au cours de cette prise de parole au National Press Club, c'est surtout la façon dont Scott Morrison a traité la France qu'il a dénoncé. Car au-delà de la relation avec Paris, ses méthodes risquent selon lui de ternir durablement l'image de l'Australie au sein du concert des nations.
Le gouvernement australien a traité la France avec mépris. Ce ne sera pas oublié. Chaque fois que nous chercherons à obtenir la confiance d'une autre nation, ils se diront « Tu te rappelles ce qu'ils ont fait à Macron ?» S'ils traitent la France de cette manière, que nous feront-ils à nous ?
Alors que des élections législatives en Australie doivent se tenir d'ici à mai 2022 au plus tard, Malcolm Turnbull, dans une dernière pique à son successeur, a refusé de dire s'il voterait pour Scott Morrison. Ce dernier faisait pourtant partie de son gouvernement lorsque Malcolm Turnbull était Premier ministre. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
L'affaire des sous-marins a jeté un froid entre la France et le Royaume-Uni. Autre sujet de friction, la pêche après le Brexit. L'accord était donnant-donnant, les Anglais peuvent continuer de débarquer leurs produits en France, les Français peuvent continuer de pêcher dans les eaux britanniques, mais beaucoup de licences n'ont été délivrées qu'à titre provisoire et elles expirent demain soir. Et une série de demandes définitives ne sont pas acceptées pour l'instant. La ministre de la Mer, Annick Girardin, réunit le monde de la pêche cet après-midi. Dernier développement ce matin, cela concerne les eaux territoriales de l'île de Jersey. 95 licences sont accordées à des bateaux français, 75 sont refusées. Jacques Doudet est le secrétaire du comité des pêches de Bretagne.
Les autorités britanniques et jerseyaises pinaillent sur les critères. Il y a encore quelques semaines, ils exigeaient que pour les navires de moins de 12 mètres, ils puissent présenter des données géolocalisées, ce qui est impossible parce qu'en fait, ils ne sont pas équipés pour ça. C'est un secteur de pêche qui est stratégique. C'est sur la carte, vue de l'Europe, effectivement, ça peut paraître une pastille, mais en fait, ce sont des eaux assez riches. Alors, il y a du homard, il y a du bulot, il y a de la coquille Saint-Jacques, de nombreux pêcheurs malouins, en première ligne, mais aussi pour la Bretagne costa-armoricain, en fait, qui fréquente assez régulièrement les eaux de Jersey. C'est un vrai problème s'ils ne sont pas dans la liste. Je pense qu'il faut pas lâcher le morceau. Là, il y a un bras de fer qui s'est amorcé et la solution, elle n'est plus en fait administrative et technique. On sent bien que c'est devenu politique, alors même qu'on a fait les structures professionnelles et les affaires maritimes un travail de fourmi depuis déjà 9 mois.
Un propos recueilli par Cécilia Arbona. La Tunisie va-t-elle avoir une femme comme Premier ministre ? On se dirige vers ce qui serait une première dans l'histoire du pays. Najla Boudène est chargée de former un gouvernement. Entre 14 et 17% du tabac en France est acheté dans les pays frontaliers ou en contrebande. Un rapport parlementaire présenté ce matin le mesure précisément. Et c'est grâce au confinement, Agnès Soubiran.
Oui, rappelez-vous Bruno, confinement plus fermeture des frontières, impossible d'aller acheter ses cigarettes en Andorre ou en Belgique, où elles sont vendues bien moins chères. Les vendeurs de cigarettes à la sauvette avaient également complètement disparu. Résultat, les fumeurs sont retournés vers leurs buralistes restés eux ouverts, ce qui a permis de chiffrer ce marché parallèle jusqu'à 29% dans les départements frontaliers, et un manque à gagner pour l'État estimé entre 2,5 milliards et 3 milliards d'euros. Jifka Park est députée du Val-d'Oise et co-autrice du rapport, et elle insiste sur la nécessité d'harmoniser la fiscalité européenne.
Une des choses aussi que nous mettons en avant, c'est d'utiliser la présidence française de l'Union européenne pour peser et favoriser une harmonisation plus forte de la fiscalité du tabac au sein de l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, les distorsions de prix sont tellement importantes qu'elles ne font que favoriser, en effet, le marché parallèle. On a bon espoir parce que lors des auditions, la Commission européenne prévoyait déjà de revoir une directive qui avait été créée en 2008 pour revoir les seuils d'importation qui existe aujourd'hui dans les différents pays. Donc ce sont des discussions qui vont être menées et on est plutôt optimiste sur le sujet.
Le rapport préconise aussi de renforcer les contrôles des douanes et de sanctionner plus sévèrement les trafiquants. Des propositions soutenues par la Confédération des buralistes qui dénonce depuis plusieurs années la concurrence déloyale des pays voisins et la vente de cigarettes de contrebande.
Un nouveau numéro vert pour la santé mentale, celui-ci en France. Il ouvrira vendredi, il sera joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, annonce d'Olivier Véran ce matin sur France Inter. Et ce numéro, c'est le 3114. Ça n'est pas une première. Ceux qui suivent l'actualité de la médecine connaissent cela, mais pour beaucoup d'entre nous, cela reste très impressionnant. Écoutez ce morceau de violon. Eh bien, l'homme qui joue est en train, en même temps, de subir une opération du cerveau. Nos confrères du Parisien aujourd'hui en France racontent ce matin cet exemple de chirurgie dite éveillée. C'était il y a quelques jours au CHU de Caen. Un violoniste de 42 ans a subi l'ablation d'une tumeur et donc, pendant l'opération, il jouait du violon. Au téléphone avec nous, le neurochirurgien qui était aux manettes. Bonjour docteur David Béraud.
Bonjour Renaud.
Vous avez 36 ans, vous avez demandé à votre patient de jouer pendant l'opération pour vous assurer que vous ne touchiez pas de zone critique du cerveau, c'est bien cela ?
Exactement. Le patient n'était pas tout à fait au courant qu'on peut faire ce genre de technique. Donc j'ai proposé de faire ça puisque sa lésion elle se trouve un petit peu dans un carrefour qui est un peu trop fonctionnel, on va dire, qui peut contrôler le langage, le champ visuel et la motricité ainsi que la sensibilité de la main droite.
Et donc pendant qu'il joue, vous voyez précisément quelles zones du cerveau sont sollicitées ?
En fait, le principe, c'est que pendant qu'il joue ou pendant qu'il fasse des tests ou des exercices, on est en train de stimuler son cerveau à peu près tous les 5 mm par un petit courant électrique, ce qui fait bloquer cette zone de 5 mm à peu près. Et donc, on va voir si cette stimulation va bloquer ce qu'il est en train de faire. Ouais. Donc, si cette stimulation le bloque, dans ce cas, on peut dire que cette zone, elle est directement impliquée dans la fonction testée. Et dans ce cas, on la touche pas, on n'enlève pas. Par contre, si elle ne bloque pas la fonction testée, c'est qu'on peut l'enlever. On peut accéder à travers cette zone-là.
Vous lui avez demandé autre chose ?
Oui, bien sûr. En fait, les tests, c'était principalement autour du langage. C'est-à-dire, il dénomme des objets en phrases complètes. Il doit savoir qu'est-ce que c'est comme objet. Il va le dénommer, l'articuler, le parler. Et on a aussi testé son champ visuel du côté gauche, du côté droit, pardon. C'est le champ visuel du côté droit. Ouais. La main droite et la sensibilité de la main droite.
Il avait subi quel type d'anesthésie, du coup, ce monsieur ?
En fait, en gros, ce type de chirurgie, il est fait avec, dans un premier temps, une anesthésie générale, le temps qu'on ouvre le crâne, enfin la peau, puis le crâne, et ensuite, dès qu'on est sur le cerveau, on réveille le patient. Alors, par contre, chez ce patient spécialement, puisque l'installation était un petit peu délicate, parce qu'il fallait un compromis entre notre installation optimale et son installation à lui pour pouvoir jouer le violon ou l'alto, donc on n'a pas pu endormir le patient dès le début, donc parce qu'on devait l'installer dans une installation où c'est un peu difficile de l'endormir.
Bien sûr.
Donc c'est pas optimal pour nous, c'est pas optimal pour lui. Donc on a fait ça sous un style local de A à Z, avec une petite sédation au début, le temps qu'on ouvre le crâne et puis qu'on accède au cerveau. Et une fois on a accédé au cerveau, on a levé la sédation douce pour que le patient puisse faire ses exercices.
Comment va-t-il ?
Donc l'inconvénient de cette chirurgie, c'est qu'il va sentir le crâne, surtout le moteur sur le crâne. Ouais. C'est un peu désagréable, c'est pas tout à fait douloureux, mais c'est très désagréable.
Mais
pendant à peu près 10 à 15 minutes.
Mais il ne souffre pas pendant l'opération. Comment va-t-il aujourd'hui?
Non. Il va très bien. Il a pu regagner son domicile. Il fait sa convalescence. Il avait des petits troubles au début, mais ça a rapidement récupéré. Il reste un peu fatigué, c'est normal. Après tout, après ce type de chirurgie, c'est normal qu'on soit un petit peu fatigué. Mais il fait sa convalescence tranquillement, sans problème. Il est content.
Merci beaucoup David Béraud d'avoir pris quelques minutes pour nous raconter cette opération qui s'est donc tenue récemment au CHU de Caen. Les hôpitaux qui ont été au cœur de l'actualité ces derniers mois et le ministère de la Santé dresse un bilan des ouvertures et fermetures de lits l'année dernière. Cela va bien au-delà du Covid, évidemment. Bonjour Véronique Julien.
Bonjour.
5700 fermetures de lits, 1400 créations de lits.
Oui, plus de 5000 lits d'hospitalisation complète, c'est-à-dire de vrais séjours à l'hôpital, ont disparu en 2020. Depuis 2013, on n'est pas loin des 30 000 lits supprimés au profit de courts séjours, accueil de jour, ambulatoire. Parallèlement, sur près de 3000 établissements de santé en France, publics et privés, 25 ont fermé leurs portes en 2020. Des petits établissements locaux surtout, au profit des grands pôles. Alors tout ça appartient à un mouvement assez global, on le sait, de déshospitalisation. On réserve désormais l'hôpital pour la phase la plus aiguë. Les durées d'hospitalisation diminuent. On privilégie l'ambulatoire, l'hospitalisation à domicile, qui d'ailleurs augmente en conséquence, plus 10,8% en 2020. L'autre raison, ce sont aussi les contraintes de personnel qui obligent à fermer des lits. C'est une réalité même aux hôpitaux de Paris, qui manquent notamment d'infirmières. Et la crise n'a pas aidé, avec des démissions en cascade que les revalorisations salariales du Ségur de la Santé essayent justement d'enrayer. Attention toutefois à ces chiffres, ils donnent la tendance de fond bien sûr, mais la gestion du Covid a pu évidemment influencer les choses avec des déprogrammations massives en 2020 et des fermetures de lits pour réaffecter ne serait-ce que provisoirement des personnels en réanimation notamment.
La PMA pour toutes entre vraiment en vigueur. Olivier Véran nous l'annonçait ce matin sur France Inter. Les décrets d'application sont sortis ce matin au journal officiel. Et on connaît en détail, c'est important, les conditions d'âge qui sont requises. Les femmes auront jusqu'à 43 ans pour le prélèvement d'ovocytes, jusqu'à 45 ans pour l'insémination proprement dite. Et pour l'autoconservation des ovocytes, qui n'est plus limitée à des raisons médicales, ce sera à partir de 29 ans et jusqu'à 37 ans. Autant de précisions que m'a donné Hélène Chevalier. On estime que 200 enfants de djihadistes français, plus leur mère, vivent actuellement dans les camps du Kurdistan syrien. La France refuse de les rapatrier. Est-ce que ce refus est contraire aux droits de l'homme? Deux familles, des grands-parents. On saisit la Cour européenne des droits de l'homme. L'audience avait lieu ce matin. Laurélie Carrive, vous avez assisté à cette audience à Strasbourg.
Dans l'immense salle ovale de la CEDH, 17 juges, chacun de nationalités différentes, se sont penchés sur la requête déposée par les deux familles. Nous sommes pleinement conscients des drames humains au cœur de cette affaire, lance en préambule le représentant du gouvernement français. Mais la question aujourd'hui est juridique. La France n'a pas de contrôle sur les camps situés dans le nord-est de la Syrie. Alors oui, une trentaine d'enfants ont déjà été rapatriés, mais après de longs mois de préparation, des négociations difficiles et des conditions périlleuses, ce qui est possible un jour peut ne pas l'être le lendemain. Pour lui, la Cour ne peut obliger Paris à effectuer ses rapatriements au risque de créer un fardeau excessif pour les États. En face, les avocats des deux familles fustigent les critères opaques, arbitraires qui ont permis de désigner les enfants déjà ramenés en France. Pourquoi eux et pas les autres? Et les requérants ont le soutien de la commissaire aux droits de l'homme. Le rapatriement, dit-elle, est la seule solution pour les soustraire à des conditions de vie atroces. Les enfants ne devraient pas avoir à subir les conséquences des choix de leur mère. Dunia Mijatović rappelle aussi l'intérêt pour les victimes de terrorisme, que ces femmes soient remises à la justice française et puissent un jour répondre de leurs actes au cours d'un procès.
La décision de la Cour européenne des droits de l'homme ne sera pas rendue avant plusieurs mois. C'est cet après-midi à 16h30 qu'aura lieu aux Invalides l'hommage national au caporal Blasco, qui a été tué au Mali vendredi dans le cadre de la mission de lutte contre le terrorisme. Autre information du jour et de la matinée, la dissolution confirmée de la maison d'édition islamiste radicale Nawa, ainsi que de la Ligue de défense noire africaine. Le métier de journaliste devient-il pour une partie des professionnels trop précaire? En 12 ans, depuis 2009, le nombre de titulaires de la carte de presse a diminué de 10%. Il y en a un peu plus de 34 000 aujourd'hui. Les assises du journalisme se tiennent jusqu'à vendredi à Tours. Alexandra Hakoun, vous vous êtes intéressée à ces professionnels qui quittent leur métier.
on part en Syrie 3 semaines, on revient, on a gagné 1 300 euros, c'est pas possible, quoi.
Et pourtant, Mathieu Delmas n'a que 32 ans, mais la précarité imposée aux pigistes, ces journalistes freelance payés à l'article ou à la journée, il n'a pas supporté. Une précarité qui touche aujourd'hui un journaliste sur 4 et constitue l'une des principales raisons de quitter la profession. Le sociologue des médias Jean-Marie Charron estime même ce chiffre en dessous de la réalité.
Si on prend ces situations de gens qui, à un moment donné, sont obligés de travailler alors qu'ils n'ont pas de carte de presse parce qu'on leur a demandé de travailler en auto-entrepreneur ou avec des statuts d'intermittent du spectacle, on serait certainement à au moins un journaliste sur 3 dans une situation de précarité.
Dans son enquête Hier Journaliste, ils ont quitté la profession, réalisée auprès d'un panel de 55 ex-journalistes. Outre beaucoup de jeunes, Jean-Marie Charron a également croisé nombre de femmes, comme Lydie Dabiran, 44 ans, mère de famille. Elle a enchaîné pendant plus de 10 ans CDD sur CDD dans la presse hebdomadaire régionale. De plus en plus de mal à concilier vie professionnelle et vie privée, sans oublier une profonde transformation du métier.
Quand j'ai commencé jeune journaliste, je n'étais que rédactrice. Et après, on est devenu Vishnu. Les sons, les images, le montage, avec le même temps et le même salaire aussi.
Le numérique qui rive de plus en plus de journalistes à leur bureau plutôt que sur le terrain. Et puis il y a celles et ceux qui parlent de violences verbales, voire physiques, de harcèlement, de burn-out. En attendant, les écoles de journalisme, elles, ne désemplissent pas.
Et les assises du journalisme, c'est donc jusqu'à vendredi à Tours. Allez, nous ouvrons la page détente de ce journal, Lego Football. Et d'abord, 3 bons films. La sélection cinéma du mercredi. Bonjour Corinne Pélissier.
Bonjour.
Tout commence avec Un père radin, une histoire austère. Cette semaine, on révise les classiques Eugénie Grandet de Balzac, qui a peut-être laissé quelques mauvais souvenirs de collège à nos auditeurs. Vous nous dites pourtant, Corinne, que l'adaptation qui sort aujourd'hui est lumineuse et moderne.
Exactement. C'était le grand défi de Marc Duguin qui réalise le film. Dépoussiérer l'histoire sans la trahir pour en faire une sorte d'œuvre girl power. Le parcours d'une jeune femme solaire, enjouée, en dépit des privations, de la vie aussi étriquée que lui impose son père, du regard pas très valorisant non plus de la société de l'époque.
Est-ce péché mon père que d'espérer un grand amour?
Quand te déciderais-tu pour Eugénie? Et notre mauvaise fortune n'en fait pas une proie convoitée.
Alors voilà toute l'affaire.
Pas un liard ne sortira de ma poche pour acheter un mariage à ma fille.
Alors en quoi cette histoire qui se déroule au 19e siècle est aujourd'hui toujours d'actualité? Eh bien, ça tient à deux raisons. Joséphine Japy dans le rôle titre, qui donne du souffle au personnage, très moderne, elle irradie. Et puis, il y a la mise en scène, à la fois très sobre, très contrainte dans sa première partie, dans le huis clos du foyer, jusqu'à la libération. Là, on se déploie, le début d'une grande aventure intemporelle. Fini le patriarcat, le regard, le pouvoir de l'argent. Eugénie Grandet est une femme libre et elle le crie haut et fort.
Et après Eugénie Grandet, vous me dites que ce sont Les Illusions perdues qui arrivent au cinéma le mois prochain. Ce sera le nouveau film de Xavier Giannoli. Votre deuxième choix de la semaine.
Le comptable, là, tu l'as trouvé?
Il a disparu avec l'argent.
Il a vu sa femme.
Le nouveau film, enfin, de Samuel Benchetrit, Cette chanson ne joue pour personne. François Damiens, Joe Estar, Bouli Lanners, Ramzi Bedia, Gustave Kervern et Vanessa Paradis, comédie loufoque, Corinne, sur le thème de l'art.
Voilà, l'art qui sauve les damnés, les violents, les âmes cabossées. C'est un film choral rempli de folie, de poésie, tourné à la manière d'un épisode de striptease, des petites frappes qui veulent séduire en alexandrin, ou bien une coiffeur bègue qui se prend pour Simone de Beauvoir. Vanessa Paradis dans le rôle, elle est remarquable. Tout comme Joe Estar dans celui d'un tonton flingueur placide et tolérant. Et oui, on rit beaucoup des situations. Pas mal d'humour, d'ironie, de baston, de cadavres. Le résultat est fin, complètement barré. C'est un film qui fait du bien.
Petit 3, Damien Benard et Leïla Bekhti dans Les Intranquilles de Joachim Lafosse.
Ils ont choisi dans le film de conserver leur prénom pour s'approcher encore un peu plus de la vérité de leur personnage. Leïla et Damien dans le rôle d'un couple amoureux, mais qui se déchire sur fond de maladie car lui est artiste peintre et bipolaire. Leur quotidien est un enfer. Joachim Lafosse, pour le film, s'est inspiré de son expérience auprès de son père, du livre aussi de Gérard Garouste, L'Intranquille. C'est un film qui ne juge pas, il est question bien sûr de bipolarité, mais c'est un film qui parle surtout d'amour. Une interprétation très fine qui aurait pu valoir d'ailleurs à Damien Bonnard un prix d'interprétation lors du dernier Festival de Cannes.
Les Intranquilles de Joachim Lafosse, Eugénie Grandet de Marc Duguin et Cette chanson ne joue pour personne de Samuel Benchetrit. Voilà donc les 3 conseils de Corinne cette semaine. Et si vous préférez passer l'après-midi à faire une construction plutôt que d'aller au cinéma, c'est possible aussi. À l'heure des consoles de jeux vidéo et des réseaux sociaux, le Lego n'est pas démodé, très loin de là. L'entreprise danoise qui fabrique les petites briques numéro 1 mondial du jouet a vu ses ventes progresser de 7% l'an dernier, année du confinement, et ça continue. Le chiffre d'affaires augmente de près de 50% au premier semestre, bénéfice près de 850 millions d'euros. Les enfants sont adeptes, mais aussi les grands, Victor Vasseur.
Ces ventes records ne surprennent pas vraiment Chris. À Vichy, ce passionné gère une boutique spécialisée dans les Lego.
Ça a bien cartonné, en effet, depuis le confinement. Ça fait que les gens, pour se distraire, ils se sont mis souvent sur le Lego. Et le fait que Lego s'est mis aussi beaucoup plus sur les adultes qu'avant.
Car il n'y a pas seulement les enfants qui en raffolent, les adultes aussi. Comme Dominique, un jurassien de 52 ans, ce qu'il aime avec les petites briques en plastique.
Le pouvoir de créer ce qu'on veut, en fait. Il n'y a pas de limite. On peut trouver pratiquement tous les jours une nouvelle façon de construire quelque chose.
De plus en plus de Lego s'adresse aux adultes. Et parmi ceux qui se vend le mieux chez Bruno, qui a un magasin à Chartres, ce sont des pièces utilisées comme objets de décoration.
Ils ont sorti une gamme en début d'année qu'ils appellent la Botanical Collection. Un bouquet de fleurs et un bonsaï. D'ailleurs, je me rends compte qu'il a été en rupture très longtemps, donc c'est pas que chez moi. Le bonsaï, c'est une boîte numéro 1 dans l'année, je pense.
Dans la boutique de Chris, par exemple, sa boîte la plus chère, c'est le vaisseau spatial de Star Wars, le Faucon Millennium, une boîte de 7500 pièces. Vendu 800 euros.
Eh oui, quand même. Allez, une brique de plus dans l'histoire du PSG. Lionel Messi a marqué hier soir son premier but sous les couleurs de Paris. 2-0 pour les Franciliens face à Manchester City. C'est Idrissa Gueye qui avait marqué le premier but. Paris prend la tête de son groupe avec Bruges. Autre résultat marquant de la soirée de Ligue des Champions, la défaite à domicile du Grand Real Madrid face à une équipe inconnue, les Moldaves de Tiraspol, qui ont gagné 2-1, Winnie Claret.
Et pourtant, les Madrilènes ont dominé le match jusqu'au coup de sifflet final. Il aura donc fallu de la chance, mais surtout une volonté sans faille des Moldaves pour renverser le club aux 13 Ligues des Champions dans son antre. L'un des principaux acteurs de cette victoire, c'est le gardien grec du Sheriff Tiraspol, Georgios Athanasiadis, qui a arrêté 10 tirs madrilènes hier soir et écœuré les attaquants menés par Karim Benzema. Le braquage du Sheriff, voilà le titre d'un bon western diffusé en direct sur la pelouse de Santiago Bernabéu. Et l'histoire est encore plus folle quand on se penche sur ce club moldave, véritable ovni dans son pays, porte-étendard de la région de la Transnistrie, une enclave séparatiste qui n'est pas reconnue par la communauté internationale, toute petite bande de terre, à la frontière avec l'Ukraine qui a fait sécession en 91 après la chute de l'URSS. Celui qui a la main mise sur cette région s'appelle Victor Gouchan, ancien policier bandit qui a fondé un conglomérat contrôlant tout sur le territoire, et notamment son club de football, et qui a hérité de son nom et de son logo, une étoile à 5 branches.
Et la deuxième journée de Ligue des Champions continue ce soir. Lille joue en Autriche à Salzbourg. Autre affiche de la soirée à partir de 21h. Juventus de Turin face à Chelsea. Dans un instant, le temps de ce jour, puis l'invité du 13-14, Sandrine Rousseau.
Je suis né dans une école d'une mère institutrice. J'ai eu à mon tour le désir de transmettre et je suis devenu professeur de mathématiques. Dans ma résidence de retraite Orpea, sur mon ordinateur, je continue de découvrir le monde, les sciences. Et pour rester à l'écoute des autres, j'ai intégré le conseil de la vie sociale de la résidence. En fait, je crois que continuer à apprendre est le secret de la longévité.
Orpea, la vie continue avec nous. Retrouvez nos maisons de retraite sur orpea.com.
Il paraît que notre compte pro Conto dérange les banques. Mais chez Conto, on se demande bien pourquoi. Est-ce parce que nous proposons un compte pro à partir de seulement 9 euros hors taxes par mois? Peut-être. Ou parce que Conto permet une comptabilité simplifiée? C'est possible. Ou alors parce que Conto offre un service client disponible 7 jours sur 7. Allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 200 000 entreprises ont déjà rejoint Conto. Finalement, c'est peut-être un peu tout ça qui les dérange. Conto, le compte au service des pros. Voir conditions sur conto.com.
France Inter aime
le nouveau spectacle de Woodkid. Une véritable explosion visuelle et musicale qui allie prouesse technique et émotion brute. Une expérience symphonique grandiose. Woodkid, en concert les 2, 3 et 4 novembre à Paris à la scène musicale et en tournée dans toute la France. Retrouvez Woodkid dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
Le temps de ce jour.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Il y a aujourd'hui du soleil autour de la Méditerranée et sur le Nord-Ouest.
Oui, l'après-midi s'annonce bien ensoleillé sur la Provence et la Corse. Le ciel du Languedoc sera partiellement voilé. Et puis entre la Bretagne, la Vendée, le bassin parisien, les Hauts-de-France et les Ardennes, le soleil est aussi bien présent. Même si quelques averses circulent, hein, comme en ce moment entre les Côtes d'Armor, la Normandie et le nord de l'Île-de-France. Cet après-midi, ces quelques averses se feront remarquer essentiellement entre la Touraine, la Sologne et les frontières de la Belgique. Et puis le reste du pays est concerné par une perturbation. Au fil de l'après-midi, cette perturbation va se décaler vers l'est, mais la couche nuageuse va devenir moins compacte et les averses seront moins nombreuses. Entre les Landes, les Pyrénées, l'Auvergne, les Alpes du Nord, la Franche-Comté et les frontières allemandes, le ciel restera chargé avec encore quelques averses, mais entre la Lorraine, le Limousin, l'embouchure de la Gironde et le Poitou-Charentes, les nuages vont laisser place au soleil et aux belles éclaircies. Et puis les températures continuent de baisser, elles sont régulièrement sous les valeurs de saison. 15 degrés à Lille, 17 degrés à Paris, 21 degrés à Toulouse et à Lyon, mais tout de même 26 degrés à Marseille, à Montpellier et 28 à Bastia.
Sébastien Léas, Météo France, pour la voix, c'est un petit peu mieux qu'hier, on va suivre ça de près. Il est 13h30, l'invité du 13-14.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
Ce sera, sauf énorme surprise, la seule primaire de cette élection présidentielle. Les militants écologistes ont donc désigné Yannick Jadot pour les représenter l'année prochaine. Victoire d'une très courte tête, 51-49, 122 000 électeurs étaient inscrits. Dans son discours de victoire, le député européen, ancien dirigeant des campagnes de Greenpeace en France, a appelé à dépasser le pôle écologiste pour atteindre l'Élysée. La vraie radicalité, n'a-t-il cessé de répéter pendant la campagne, c'est d'accéder aux responsabilités. Quel rôle maintenant pour son adversaire, celle qui était son adversaire au second tour, la véritable découverte de cette primaire, qui a défendu un discours des mesures plus radicales autour du thème de l'écoféminisme et qui est passé hier à deux doigts de l'emporter. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions à notre invité jusqu'à 13h45, celle qui est donc passée tout près de la victoire hier. Bonjour Sandrine Rousseau.
Bonjour.
Est-ce que les écologistes sortent plus forts de cette primaire ?
En tous les cas, quelque chose d'historique s'est passé et je pense que ma candidature a réveillé quelque chose dans la société. C'était des discours qui et des positions qui n'étaient pas dans le champ politique et qui se sont imposées dans le champ politique. Et vraiment, tous les messages que je reçois depuis hier témoignent d'un espoir extrêmement fort qu'avait suscité ma candidature, bien au-delà finalement de la primaire, puisque plein de gens n'avaient pas pu s'inscrire à cette primaire, compte tenu des délais assez courts d'inscription. Et je crois que c'est quelque chose qu'on vient d'entendre, parce que
vous avez réveillé quoi ?
Ben, c'est assez difficile de le décrire, mais en tous les cas, quelque chose de l'ordre d'une forme d'envie de refaire politique, d'enthousiasme à le faire, d'espoir. Et on l'a vu avec la candidature aussi de Christiane Taubira qui avait suscité de l'espoir. Je crois que c'est un peu de cet ordre-là ce qu'a suscité ma candidature. Et ce que je voudrais dire aux militants et militantes, mais aussi à toutes les personnes qui m'arrêtent dans la rue et toutes les personnes en qui j'avais suscité un espoir, ça n'est pas fini et vraiment conserver cet espoir parce que voilà, le paysage politique a changé et je compte bien encore y jouer un rôle déterminant. Donc venez et continuez à voir, à entendre, à écouter et vous verrez que quelque chose quand même va se passer.
Alors quel rôle voulez-vous jouer ?
Ah bah, en tous les cas, la balle est dans le camp d'Yannick Jadot aujourd'hui. C'est lui qui a gagné. Et on était à deux doigts de transformer vraiment le récit de cette présidentielle. Je pense que la dynamique était vraiment dernière
mois. Là, ça n'est pas le cas. Le récit de la présidentielle n'est pas transformé.
Pas encore. Et c'est à Yannick Jadot de voir s'il est en mesure de le transformer.
Vous
je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé derrière la candidature que je porte et on ne peut pas non plus juste reprendre des éléments de langage parce que c'était une manière différente de faire de la politique.
Mais du coup, très concrètement, qu'attendez-vous de lui et puis on va au standard. Qu'attendez-vous de lui ?
Là, je le rencontre cet après-midi, donc je ne vais pas anticiper les choses, mais juste de dire qu'il faut qu'il entende que les courbes étaient en train de se croiser.
À une semaine près, vous dites j'aurais pu gagner.
Oui, je pense. Oui. Je pense.
Vous êtes convaincu de ça?
Ah oui, bah oui, oui. Il y a même pas tellement de doute en vrai.
Ce qui vous donne un poids supplémentaire dans la campagne?
Je pense qu'en tous les cas, on ne peut pas faire comme si j'étais une candidate comme une autre. Oui.
Anna au standard. Bonjour Anna.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour, tout d'abord merci France Inter de prendre ma question et je félicite encore Sandrine Rousseau pour son parcours et je trouve que elle a émis des idées très très intéressante et très originale, et vraiment on a besoin de ça à gauche. Donc je voulais lui demander comment comptait-elle donc peser dans la campagne, ne serait-ce que pour bouger les lignes justement, des idées à gauche, parce que on en a besoin. On a besoin, et Yannick Jadot il veut gagner, bon, on peut gagner que en se rassemblant. Donc je voulais savoir quelle était sa position et comment elle allait pouvoir peser sur le débat et faire bouger justement les lignes.
Merci,
les lignes à gauche,
merci Anna.
Et au-delà.
Sandrine Rousseau.
Mais bonjour Anna, juste peut-être répondre simplement en disant que moi j'ai porté la radicalité, j'ai porté des questions sociales, une écologie de gauche affirmée, fière de l'être, et que c'est cela qu'il va falloir porter aussi dans cette campagne présidentielle, parce que l'espoir il vient de là. Il vient de retrouver les valeurs, de se dire que l'égalité n'est pas secondaire, que la transformation écologique ne pourra se faire qu'avec chacun et chacune, et que ça ne pourra se faire qu'en transformant la structure du pouvoir et le respect de chacun. Et donc, voilà, encore une fois, la balle est dans le camp d'Yannick.
Ça passe par une place particulière pour vous, ça passe par des mesures particulières. On va détailler vos éléments de programme et ce qu'il est différencié de Jadot et de voir s'il y en a auxquels vous tenez absolument. D'abord, ça passe par une place particulière.
Ça passe en tous les cas par le fait que ma parole soit encore présente, oui.
Et ça passe par des mesures particulières.
Dans les mesures que j'ai portées, il y a des choses qui sont très importantes à mon sens pour résoudre une forme de crise sociale, comme le revenu d'existence ou comme la réduction du temps de travail. Et ça, ça fait partie des choses, en effet, sur lesquelles il va falloir que l'on travaille. Mais encore une fois, le porter sans avoir la conviction que ça doit être au cœur du projet écologiste ne servira pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'il nous faut et le porter et incarner ces mesures-là. Mmh. Et encore une fois, vraiment, là, je crois que quelque chose... Enfin, moi, depuis hier, je ne reçois que des messages de gens qui me disent « Mais pour qui vais-je voter ? Pour qui vais-je voter ?» Et vraiment, je m'adresse à toutes ces personnes pour leur dire « Mais ne perdez pas espoir, restez et on va continuer. »
Mais pardon, vous leur dites « Vous allez voter Jadot ?» Vous les appelez à voter Jadot ? Est-ce que très clairement, vous dites aux gens qui vous ont soutenu, qui vous... Pardon, je finis ma question. Est-ce que vous dites très clairement, parce que c'est l'étape numéro un, très clairement aux gens qui ont voté pour vous et à tous ceux qui vous contactent depuis hier, votez Jadot.
Et moi, j'ai toujours été très loyale hein, dans cette primaire et j'ai joué le jeu de manière très réglo.
Pour l'instant, ça répond pas à ma question.
Et donc la question, elle est encore une fois, elle est dans le camp de Yannick. Elle est dans le camp de Yannick.
D'accord. En disant, vous ne prononcez pas cette phrase là à l'instant où on se parle. Vous ne dites
qu'est-ce que vous êtes capable d'entendre de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous êtes capable de comprendre de ce qui s'est passé. Est-ce que vous saisissez le mouvement qui est derrière moi là. Est-ce que vous le saisissez dans sa complétude et est-ce que vous le saisissez dans sa force. Et ce mouvement là n'est pas un mouvement que l'on attrape juste par quelques mots. C'est un mouvement puissant et un mouvement qui doit aussi porter une autre manière de faire de la politique et qui ne peut pas juste être des pastilles sur un discours. Donc voilà, je suis là.
Je pense que
ce score est important et qu'il faut l'entendre.
Vous ne dites pas voter Jadot à toutes les conditions. Pardon, je repose ma question, c'est important, on est au lendemain d'une primaire.
Je dis que je suis loyale et que je l'ai dit hier, je suis loyale, mais que maintenant il faut aussi que la loyauté soit dans tous les sens et dans les deux sens.
Alors, élément de programme, comment ça se manifeste tout ce que vous nous dites au plan des institutions. Yannick Jadot proposait la proportionnelle intégrale. Vous voulez un changement de République avec une convention citoyenne. Ça fait partie des choses que vous allez défendre mordicus dans les semaines à venir.
Le changement de République est indispensable aujourd'hui, vraiment, parce que on le voit, on est ad nauseam d'un présidentialisme exacerbé, d'un président omnipotent qui prend ses décisions de manière la plus obscure qui soit, qui ne s'appuie pas sur le Parlement, qui est l'instance normalement, le cœur battant d'une République et d'une démocratie. Et donc, je crois que ça fait partie en effet des priorités. C'est-à-dire pour que les Français et Françaises retrouvent confiance dans la politique, confiance dans la représentation politique, et surtout, ils trouvent leur place à eux. C'est-à-dire que ça s'ouvre aux personnes qui ne soient pas des professionnels de la politique en quelque sorte, ou des personnes qui ne font que ça et qui enchaînent les mandats. Et donc pour que ce mouvement-là, cet élan-là puisse avoir un débouché, il faut absolument réformer la République et réformer la Ve République.
Florent au standard de France Inter. Bonjour Florent.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, bonjour. Tout d'abord, je voulais féliciter Madame Ronson. Effectivement, votre venue dans le paysage politique a bien modifié des choses dans les différents thèmes abordés. Je voulais savoir, pour vous, est-ce que vous espérez une union de la gauche dans les semaines à venir, ou mois à venir, ou est-ce que pour vous, il y a d'autres façons de gagner en 2022 que de forcément avoir une union de la gauche pour ces présidentielles?
Sandrine Rousseau.
Il y a
six candidats à gauche, hein, si je me trompe pas. Il y en a tellement, je suis pas sûr de tous les avoir comptés.
Il y a deux étapes, hein. La première, c'est d'abord de porter quelque chose et de le porter haut et fort, de le porter avec fierté, de dire que là, on ne peut pas continuer dans le système tel qu'il est actuellement, dans le système démocratique, économique, social tel qu'il est actuellement. Et ça, le réaffirmer, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a un ras-le-bol énorme. Donc déjà, poser ces mots-là dans le débat politique et les poser sereinement, avec force. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que ces mots-là seront posés avec tellement de conviction que personne ne doute du fait que réellement ça changera le système, alors oui, il nous faut discuter avec les partenaires de gauche. Bien sûr, c'est ce que j'ai toujours porté. Mais pas juste un bout de l'arc. Tout l'arc. Parce que
ça veut dire quoi, tout l'arc?
Tout l'arc, ça veut dire du PS à LFI sans exclusive.
Là, vous allez dans le mur, la gauche, avec six candidats. Il y a un risque très élevé que la gauche ne soit pas au second tour, donc il va falloir trouver une solution.
Oui. Mais la solution...
Est-ce que vous y croyez? Vous y croyez à cet arc du PS à LFI?
Non, mais la chose importante à se dire, c'est que si on regarde les scores des écologistes, on a gagné des mairies et des villes importantes sur des dynamiques citoyennes, et on a perdu des régions sur des accords de parti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de formule magique autour des accords de parti. Par contre, il y a quelque chose de l'ordre d'un espoir à donner au peuple de gauche et écologiste, et je crois que cet espoir-là, il est prêt à éclore, parce que tout le monde a peur de ce qui va se passer. Tout le monde a peur de soit retrouver Emmanuel Macron au pouvoir, soit que l'extrême droite l'emporte. Et je crois que cette peur-là, elle est très présente parmi les citoyens et citoyennes et les personnes qui ont des sensibilités de gauche et écologiste. Et donc, il nous faut donner aussi un signe de responsabilité et de maturité. Et encore une fois, là-dessus, c'est aussi mener la bataille culturelle. Ça n'est pas juste une question d'accord, c'est une question de bataille culturelle. Là, nous sommes dans une bataille culturelle de la plus haute importance.
Il y a actuellement des négociations pour une coalition en Allemagne. Les Verts sont à peu près incontournables dans cette coalition, mais les Verts sont prêts à gouverner, par exemple, avec les libéraux, le FDP. Les Verts, ils sont au pouvoir dans 11 gouvernements régionaux sur 16. Ils ont participé à plein de coalitions et sans doute fait avancer la cause écologiste depuis des années. Est-ce que l'écologie qui gagne, c'est pas celle-ci?
Moi, j'ai entendu aussi des responsables verts disant que justement parce qu'ils n'avaient pas été assez radicaux dans leur discours et dans leur proposition avant d'être élus, ils n'arrivaient pas à transformer suffisamment l'économie allemande et des lenders dans lesquels ils sont élus. Donc en fait, là-dessus, il y a une forme aussi d'honnêteté vis-à-vis des personnes qui votent, et c'est ce que j'ai essayé de porter d'ailleurs dans cette campagne, en disant mais on a 5 ans pour agir, donc on ne peut pas faire comme si tout allait continuer comme avant. Et finalement, le poser dès à présent, c'est permettre aux personnes aussi de faire leur chemin vers les transformations qu'il y a à mener. Et en tous les cas, les Verts allemands aujourd'hui le disent eux-mêmes. Ils sont confrontés à une limite dans leur action. Parce que le gouvernement ne suffit pas en soi. Participer au gouvernement ne suffit pas en soi. Il nous faut, encore une fois, mener cette bataille culturelle et affirmer ce au nom de quoi on fait de la politique. Et ce au nom de quoi on fait de la politique, c'est qu'en 5 ans, on change de trajectoire. Et donc, aujourd'hui, pour avoir les moyens d'agir après, il nous faut le poser aujourd'hui.
On arrive au terme de cet entretien, Sandrine Rousseau. Juste, je vous ai bien compris, vous voyez Yannick Jadot tout à l'heure. Ce que vous nous dites, c'est que vous ne serez pas forcément à ses côtés, à son soutien, pas à n'importe quelle condition, ça n'est pas sûr.
En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai porté dans cette campagne compte. Nos voix comptent. Et elles comptent complètement.
Merci Sandrine Rousseau d'être venue au micro de France Inter. 13h44.
France Inter, le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
La première réalisatrice de cinéma.
Ouais, une femme qui a compté dans l'histoire du cinéma, Alice Guy.
Ce sera tout à l'heure. Avant cela, le feuilleton. Olfa Jouini, médecin du travail, au micro de Claire Chaudière. Aujourd'hui, il sera question du télétravail. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Le comédien Olivier Sitruk, comédien pour le cinéma, la télévision Et le théâtre est à votre micro aujourd'hui. Le théâtre, Théâtre Héberto, en ce moment à Paris, dans une pièce d'Oscar Wilde.
L'histoire de deux jeunes londoniens qui, pour l'un, s'inventent un frangin fictif et pour l'autre, un copain fictif. Afin d'échapper aux obligations sociales, la fidélité notamment, cette pièce est une satire de la société victorienne, autant qu'un chef-d'œuvre d'humour, c'est l'importance d'être constant.
L'importance d'être constant, tout à fait.
Vous, vous êtes quelqu'un de constant ?
Je saurais pas le dire. Je suis resté très longtemps en couple, par exemple. Je suis resté 27 ans en couple. Je me suis séparé il y a pas si longtemps que ça. Où j'ai des amis depuis une bonne trentaine d'années. Oui, j'ai une certaine constance. Non, c'est vrai. Ça me déprime un peu tout d'un coup de dire que je suis constant. Surtout par rapport au choix de la chanson. Mais oui, je dois avoir une certaine constance. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe that you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. C'est donc David Bowie qui a choisi de nous faire écouter Olivier Sitruk, Frédéric, avec un titre de 1972, Rock and Roll Suicide.
Une chanson qui a totalement bouleversé son adolescence.
Quand j'avais 12-13 ans, je pense que j'écoutais mes 45 tours, on faisait des booms et c'était... J'allais dire très mauvais, c'était pas très mauvais, mais je veux dire que ça faisait partie des standards des années 80 que tout le monde écoutait. Donc voilà, j'écoutais Macumba et Mylène Farmer. Et puis un jour, un ami m'a fait écouter ça. It breaks the snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Et donc, cette découverte de Bowie, elle se fait comme ça. Après cette chanson, moi, je suis un enfant de la bourgeoisie de province. Mon père était médecin dans le Var. J'étais plutôt assez sérieux. Et là, tout d'un coup, rock and roll suicide, quoi. On bascule dans une musique qui, tout d'un coup, raconte quelque chose dans le fait de fumer une cigarette, de crier son désespoir. Et puis, j'aime bien la façon dont cette chanson monte, évolue... Elle commence comme une balade et elle finit comme un rock. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You've got your head all tangled up, but if I can only make it there.
Le personnage de Bowie, ça comptait aussi pour vous?
Je viens d'une famille extrêmement conventionnelle. Donc j'essaie de me remettre au truc de l'époque. J'imagine que ça m'effrayait et ça me fascinait. La façon de s'habiller, l'androgynie. D'ailleurs, en fait, j'étais très fan après de Prince aussi, qui était aussi dans cette veine-là d'exubérance. Je l'ai jamais été, moi. Donc, je pense que je suis fasciné par ces gens qui vont au bout, qui vont dans une provocation, qui vont aussi dans un plaisir, parce que il y a un plaisir de se déguiser, de se transformer et tout ça. Je le fais dans les personnages, moi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus discret.
Aujourd'hui, quand vous entendez cette chanson-là, elle vous emmène où ?
Aujourd'hui, je la chante dans ma voiture, hein, je vous la chanterai pas là. Dans ma voiture, sous la douche, et ça me permet d'exulter quelque chose. Je la chante beaucoup.
Beaucoup, ça veut dire ?
Bah, je sais pas, je dirais au moins une fois par semaine.
Rock and Roll Suicide, David Bowie, c'était donc Frédéric, le choix du comédien Olivier Sitruk.
Qu'on retrouve aux côtés d'Evelyne Buil, de Delphine Depardieu et Arnaud Denis dans la pièce d'Oscar Wilde. L'importance d'être constant, c'est au Théâtre Héberto à Paris.
Le feuilleton une semaine avec une médecin du travail en entrant dans le cabinet du docteur Rolf Ajouini avec Claire Chaudière dans un centre inter-entreprise du 8e arrondissement de Paris. Eh bien, on mesure mieux tout ce que le Covid a changé dans le rapport au travail. Épisode 3, le télétravail.
Donc vous êtes 3 jours Paris, 2 jours Montpellier, c'est ça ? D'accord, ça se passe bien? Ils savent que vous êtes à Montpellier, etc. Il n'y a pas de souci. D'accord, ils le savent, ça c'est prévu. J'espère que ça ne posera pas de soucis, madame, hein, ces allers-retours. On aménage un peu déjà les horaires, c'est un petit peu, vous voyez, bon, mais pas de souci. Après, parce que vous habitez ailleurs, il faut aménager. Là, je ne peux pas rentrer là-dedans, vous comprenez?
D'accord.
Le choix perso, parce que vous, et je le comprends, mais ce n'est pas l'entreprise qui vous demande d'aller à Montpellier.
Ok, asseyez-vous, je vous en prie, je vais écouter d'ailleurs. Allongez-vous, je vous en prie.
Il y a cette question en cette rentrée 2021 du retour au travail post-Covid, post 100% de télétravail parfois. C'est quelque chose que vous voyez au quotidien.
Ah oui, le télétravail est au centre là des consultations. Certaines entreprises ont décidé de maintenir un télétravail à 100% à la discrétion du manager éventuellement. D'autres ont imposé 2 jours de télétravail, ce qui va bien en général aux salariés. D'autres ont arrêté complètement le télétravail. Et là, ça coince un petit peu. Bah, les salariés disent, non, mais je comprends pas, je faisais bien mon travail jusqu'à présent, je vois pas pourquoi on me donne pas de télétravail, ils ont bien vu que j'avais une bonne productivité, pourquoi est-ce que j'ai pas de télétravail? Et ça donne des difficultés parce que ils ont aussi organisé leur vie, leur semaine en fonction de ce télétravail-là et ça chamboule un peu les choses. Là, on a dit à l'employeur, vous reprenez la main. Très bien, il n'y a pas de souci, mais je peux discuter en disant de manière collective, toujours là, je ne vais pas de manière individuelle de dire, bon, si ça s'était bien passé jusqu'à présent, pourquoi vous ne leur donnez pas 1 ou 2 journées? C'est quand même dans l'air du temps, on est en 2021. Puis il y en a qui vont déménager, qui ne l'ont pas forcément dit à leur employeur. Et là, va se poser un vrai, vrai souci, là.
Mais vous ne pouvez pas aller le raconter à l'employeur?
Absolument pas, bien sûr que non. Secret médical. Le secret médical s'impose sur tous les domaines. Ce n'est pas juste l'état de santé du salarié, c'est tout le reste, quoi, hein, bien sûr. Donc c'est bien que vous ayez 2 jours de télétravail.
Ouais, j'aurais souhaité en avoir 3. Parce que j'ai 3 heures de transport par jour, donc j'avoue que ça en plus vient s'ajouter.
Je sais, madame, mais le transport n'est pas à la charge de l'employeur en termes de temps, etc. C'est 3 jours actuellement. Bon, on se revoit, nous, dans 2 mois, madame, hein, mm-hmm. Et je vous conseille de faire ce petit check-up, là, peut-être. D'accord?
Oui.
Ils viennent chercher quelque chose que vous ne pouvez pas forcément leur donner.
Tout à fait. Et vous voyez, et donc ils essayent un petit peu en pensant que vous allez pouvoir intercéder ou je ne sais quoi, alors qu'on intercède sur l'état de santé d'un côté, le poste de travail de l'autre, et faire en sorte que le poste de travail n'altère pas l'état de santé. Et donc c'est un petit peu compliqué. Et ça peut être la même chose de l'autre côté, hein, les employeurs qui demandent des choses alors que... Et donc du coup nous...
C'est-à-dire du côté employeur, ça se matérialise comment?
Ils vont estimer, par exemple parfois l'employeur va dire « il n'est pas capable de faire telle et telle chose ». En termes de productivité, il a un état de santé qui va bien, mais il ne produit pas ce que vous lui demandez. Mais ce sont 2 choses différentes. Et parfois, il y a un petit peu un mélange des genres, là. J'ai un médecin que je formais, qui me suivait comme ça toute la journée, et qui, au bout de 2 semaines, m'a dit « Mais ici, c'est le Quai d'Orsay. » On est en train de dire à l'un « Écoutez, il a le droit de vous demander ça à votre employeur. » Et de l'autre côté, de dire à l'employeur « Oui, mais bon, peut-être que vous pourriez un tout petit peu être un peu plus cool pendant quelques temps, etc. » Donc, ça nous arrive un peu, mais c'est pas...
Vous ne pouvez pas prendre vraiment systématiquement le parti des salariés ou de l'employeur, quoi.
Hors de question. Si jamais je prenais... le parti de l'un ou de l'autre, alors je ne réponds pas au code du travail. Et c'est une ligne de conduite qui me guide toute la journée, moi.
Une semaine avec la médecin du travail Olfa Jouigny, reportage Claire Chaudière, réalisation du feuilleton Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Elle est l'une des pionnières du cinéma. Une bande dessinée signée Cattel et Bocquet lui est consacrée. Elle est aussi l'un des personnages d'une exposition consacrée au cinéma des origines, cinéma des origines au musée d'Orsay à Paris. Jean Lebrun, la réalisatrice Alice Guy, est dans votre vif de l'histoire aujourd'hui.
Mademoiselle Guy, comme on a dit longtemps, c'était la secrétaire de Léon Gaumont et elle avait le don d'imaginer des histoires. Alors quand elle dit à Gaumont qu'on pouvait peut-être aller au-delà des documentaires façon lumière, il la laisse faire. Son premier film, 1896, est tourné sur une terrasse de Belleville avec en guise de décor un drap peint. des menuisiers ont fabriqué des choux en bois, d'où vont sortir des bébés, que la fée aux choux, c'est le titre, va exposer à la vente. Mademoiselle Guy avait sur la maternité des idées bien à elle. Comme sur bien d'autres sujets. Par exemple, elle était suffragette. Elle représentera une ville où les hommes vaquent au ménage pendant que les femmes les houspillent. Ça s'appellera « Après le féminisme ». En attendant, elle devient responsable de la production chez Gaumont et c'est elle qui embauche Louis Feuillade. Quand elle dirige les acteurs, elle leur recommande le naturel plutôt que l'outrance. Les trucages la passionnent, la couleur ne va pas lui faire peur, non plus que la longueur. Sa vie du Christ, qui tient davantage du péplum que de l'évangile, va durer 35 minutes.
Et au bout d'une douzaine d'années de bons et loyaux services à Paris, et alors qu'elle paraissait indispensable, Gaumont l'envoie aux États-Unis.
Oui, alors est-ce qu'elle a fait des jaloux? Elle suit là-bas un autre employé de la maison qu'elle épouse, Herbert Blacher. Il est présenté tour à tour comme directeur d'une agence Gaumont à l'étranger, comme opérateur, voire réalisateur. En tout cas, Gaumont demande au couple de développer outre-Atlantique le chronophone qui permet de synchroniser l'image et le son et de réaliser des vidéoclips avant la lettre avec des vedettes de l'époque comme Mayol ou Dranem. Le couple va bientôt fonder son propre studio dans le New Jersey, la Solax. Vous savez, plafond amovible, clavier de lumière. En 1912, Alice est tournera l'imbécile avec son argent, dont toute la distribution sera noire. Il a bien fallu faire ainsi, observe-t-elle. C'est un drôle de pays quand même, hein. Les acteurs blancs ne veulent pas travailler avec des noirs. Elle aime elle-même les risques, et quand elle fait exploser un bateau, c'est un vrai bateau, c'est pas une maquette. D'ailleurs, son mari, Herbert Blacher, va manquer d'y perdre la vie. Je signale sa disponibilité, parce que dorénavant, Bruno, vous allez me faire dire du mal de lui.
Bah oui, parce qu'il plante là Alice, qui ne va pas pouvoir garder le studio, qui fera faillite en 1920.
Bah oui, une page se tourne. Herbert est parti avec une actrice. C'est en effet le règne des actrices qui commence. Il est parti à Hollywood. Et en effet, c'est sur la côte ouest que ça se passe maintenant. Et Alice Guy ne va pas s'y faire, non plus qu'elle ne retrouvera de place en France à son retour. Et elle va mourir dans l'oubli. 94 ans, en 1968.
Oubliée par les artisans du cinéma, ses contemporains?
Alors, on a pris l'habitude de dire oubliée par les historiens du cinéma. Enfin, il faut dire que la plupart de ses films ne lui étaient plus attribués, qu'elle-même en avait peut-être récupéré 2,5. Elle avait cependant reçu la Légion d'honneur en 1955 et quelques esprits libres s'étaient pris d'intérêt pour elle, Bocquet, l'auteur de la biographie dessinée que vous citiez, rend hommage à Francis Lacassin qui a publié son premier article en 1971. Et puis après, il y a eu un livre de Brachy, la petite fille de la cinéaste, a réalisé un premier documentaire. Ensuite, Pamela Green, un documentaire, puis un biopic, c'est elle qui signe la notice du catalogue de l'Expo d'Orsay.
Alors là, je vais peut-être dire des bêtises parce que la graphie est bizarre sur ma feuille. 14e arrondissement de Paris, il y a une place Alice Guy et une plaque qui signale première réalisatrice, c'est ça?
Oui, vous avez un papier?
Oui.
Ah oui? Bah moi aussi, oui. C'est ça la radio maintenant. Réalisatrice, productrice, opératrice. Bah, c'est pas facile d'identifier les rôles dans les débuts du cinéma. On l'a vu pour Herbert, le mari, il occupait plusieurs fonctions. Pareillement, sa femme. Alors on a comparé les studios des origines aux ateliers des peintres de la Renaissance constitués d'innombrables collaborateurs autour de quelqu'un qui produit les idées, les gestes. Eh ben, les idées, les gestes, c'était la responsabilité à 360 degrés d'Alice Guy. Allez, on va dire, pour satisfaire Madame Rousseau qui était dans votre studio il y a un instant, que c'est une autrice, Bruno Duvic.
Alice Guy, Cattel et Bocquet, la bande dessinée, c'est chez Casterman et l'exposition, c'est donc au musée d'Orsay. Merci Jean Lebrun et bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré dans un peu plus de 5 minutes.
Oui, je reçois le sociologue Jean Viard pour réenchanter les territoires.
Ben c'est très bien, voilà. Tout de suite.